Dans l'ontologie du néoplatonisme, il y a une cascade c'est assez émanatiste, comme on dit, c'est-à-dire de l'un qui se soucie de rien, hein, puisqu'il est auprès de lui-même, eh ben, il va produire comme déchet l'intelligence, puis après il va y avoir toutes sortes comment dire, de processions, de concepts, si vous voulez. Et ça va finir par s'abolir dans la matière, qui est la dernière chose impensable en soi. Et tout le travail, c'est de repasser à travers toutes ces sphères jusqu'à l'un. Et alors, vous voyez, le danger, c'est que dans le néoplatonisme, on a cette idée de procession, donc l'un qui produit l'intelligence qui produit la pensée qui produit encore autre chose. Puis l'homme, puis etc. Et nous, on a aussi le christianisme se cherchant dit bah oui de l'un qui est le père et produit un deutérostéos, diront certains, un deuxième dieu. D'autres plus justement diront plutôt l'effigie de la substance du père, l'autre donc. Et puis alors à partir de là, c'est pas compliqué de dire que du fils sort l'esprit, voyez. C'est un peu les orientaux. Nous, quand on dit que le fils, donc l'esprit procède du père et du fils, on casse hein, ce mouvement de l'émanatisme néoplatonicien. Par pure transitivité qu'on aurait le père qui produit le fils qui produit l'esprit qui produirait la grâce qui produirait je sais pas quoi. Et après, on se retrouverait avec cette espèce de cascade typiquement païenne. Alors justement, Plotin, lui, il parle de ces hypostases, donc de ces espèces de substances, au sens étymologique du terme, l'un qui produit l'intelligence, qui produit l'âme, voyez, l'âme du monde, l'anima mundi des stoïciens, et l'un est même en deçà de l'être, voyez. Il contient tout le pensable. Et c'est la réalité vraie, le monde des idées. Et l'intelligence, c'est, on pourrait dire, l'expression rationnelle de ce un qui est indicible. Et de là à dire que c'est le verbe, vous voyez, comme c'est facile hein, d'avoir. Et puis alors après, la troisième hypostase, c'est l'âme. Et l'âme, c'est le principe de tout le monde sensible, selon les néoplatoniciens. Et cette âme qui découle de l'intelligence, ça sera l'âme du monde, puis l'âme de l'homme, des âmes individuelles, etc. Et le monde sensible procède de cette troisième hypostase qui est l'âme. Alors là aussi, l'âme, principe de vie, d'activité, etc. Facile de dire que c'est aussi proche du Saint-Esprit, hein, comme idée. Donc voilà une doctrine, celle du néoplatonisme, qui aura une grande influence sur, on pourrait dire, les âmes nobles, les gens qui ont un désir de vie spirituelle. Eh bien, voilà, avec une certaine conscience de leur supériorité, n'est-ce pas? Eh bien, ils feront tout ce travail de retour sur eux-mêmes, d'approfondissement, de méditation, etc., etc. Évidemment, ils n'iront pas se salir les mains avec les dockers du port d'Alexandrie. Hein. Alors voilà, c'est une spiritualité aristocratique. Alors, autre philosophie en vogue à l'époque, notamment en Égypte, le manichéisme, qui va diffuser à partir de l'Iran, et qui est encore plus proche du dualisme indien, oui, c'est ça, indien, vous savez, il y a l'immatériel et le matériel, en gros. Et il semblerait d'ailleurs que Clément d'Alexandrie ait connu des brahmanes Et il cite même le Bouddha dans un de ses écrits. Donc vous voyez comment cette pensée de l'Inde était parvenue à travers l'Asie centrale, où elle va influencer Mani, qui était un prêtre chrétien au début, qui à partir d'un vieux dualisme local va faire aussi une doctrine, donc le manichéisme, qui va avoir tant d'influence sur saint Augustin, à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire au Maghreb. Eh bien, cette pensée indienne va toucher aussi le monde grec, hellénistique, en particulier égyptien. Et il ne faut pas s'étonner, hein, parce que autant ça nous paraît difficile à imaginer, dire mais la pensée des Indiens, elle arrive comme ça, à l'autre bout. Mais à l'époque, les routes maritimes marchaient très bien. La flotte romaine était puissante, elle dominait la Méditerranée. Il y avait des principautés aux Indes qui étaient déjà pas hellénisées, mais qui connaissaient le monde hellénistique, tout simplement parce qu'Alexandre y était allé. Après tout, pourquoi les chrétiens ont pu s'implanter dès le 1er siècle aux Indes? Parce qu'il y avait déjà des milieux hellénisés aux Indes, hein, et probablement des commerçants juifs aussi. Hein. Donc il y avait une certaine facilité de communication par le golfe persique, etc. etc. Et donc les idées voyageaient comme aujourd'hui. Et elles voyageaient peut-être d'autant mieux qu'à l'époque, la langue commune, c'était le grec. Hein, aujourd'hui, nos idées, hein, par exemple, moi j'ai traduit la thèse de Ratzinger, ça faisait 63 ans que les gens ne connaissaient pas ce qu'il avait dit, tout simplement parce qu'on n'étudie pas l'allemand, et qu'on n'a plus... toute la théologie n'est pas traduite en anglais. Hein. Si tout était traduit en anglais, il n'y aurait pas de problème. Mais tout n'est pas traduit en anglais, donc finalement, il y a des univers entiers qui s'ignorent. Par exemple, les Anglais sont en train de découvrir la pensée de Henri de Lubac, donc 50 ans après, 70 ans après. Oui, ils sont.
Les catholiques anglais ?
Non. Alors, les catholiques connaissaient déjà un peu pour ceux qui étaient venus en France, mais les intellectuels anglicans. C'est-à-dire, soudain, ils découvrent que, les grands trucs de catholicisme, etc., qui ont aujourd'hui, ça a été publié en 40, hein, donc ça. Pas loin de 80 ans, ils font des thèses, ils publient des ouvrages et ils discutent la pensée de Lubac, alors que nous, on la connaît depuis l'origine. Donc ça, c'est le problème de la langue. Et alors là, à l'époque, ce qui est bien, c'est que tout le monde parle grec.
Oui. Ouais.
Donc des confins de l'Inde, des contreforts de l'Inde jusqu'à extrémités, jusqu'aux colonnes d'Hercule, et jusqu'en Scotia.
Ah non, parce qu'il y a le mur
d'Adrien, voilà, il y avait quand même quelques Scots qui devaient parler grec. Alors, donc, tout ce monde-là a une langue. Oui, tout ce monde-là a la même culture. Enfin, disons, au moins, est capable de... Les idées circulent. Alors, je parlais du manichéisme. Alors, ce Mani, c'est à peu près, un contemporain de Plotin, puisqu'il est né en 216, il meurt en 277. Il était apparenté à la dynastie des Parthes. Vous savez, les grands ennemis des Romains. Et il va partager le syncrétisme religieux des Parthes. Mais les Perses vont écraser les Parthes. L'Empire Parthe va... Oui. Et les Sassanides, la dynastie perse, va rétablir l'ancienne religion traditionnelle, le mazdéisme. Alors qu'il est aussi un dualisme entre la lumière et les ténèbres, à dominante plus morale, avec ses mages. Et Mani, qui avait été en contact avec des... Parce que l'Empire Parthe s'étendait sur la Mésopotamie, donc avait été en contact avec des juifs et des chrétiens de Babylone, mais donc aussi avec les religions traditionnelles perses et parthes, va... être persécuté et martyrisé, mais il avait aussi connu, il serait allé aux Indes, et il avait aussi connu des brahmanes et des bouddhistes. Donc vous voyez, on est véritablement dans un parfait syncrétisme de bouddhisme, de brahmanisme, enfin d'hindouisme intelligent, et de mazdéisme, de christianisme, de judaïsme, et probablement avec toutes les hérésies qui vont avec. Hein. Et alors en 240, ce Mani, Manas, parfois on dit, reçoit une révélation, et il est persuadé, ça va vous faire penser à quelqu'un sûrement, il est persuadé que sa mission prolonge celle de Zoroastre, de Bouddha et de Jésus. Donc il est en quelque sorte le sceau des fondateurs de religion. Hein, vous voyez, il y en a un autre aussi qui aura sa révélation.
Il shootait ce mec ou pas?
Ah oui, mais il devait shooter parce que le soleil est un peu fort l'été. Moi je pense que c'est... Il y en a certains, ça doit être simplement des assolations.
J'en ai entendu parler.
Et oui, parce que alors il prétend du coup ce Mani être le révélateur en qui s'est manifestée la vérité totale. Oui, hein. C'est pour ça que je vous dis, il y en a un autre quelque temps plus tard qui aura la même vision des choses. Alors sa doctrine. Alors j'en parle un peu parce que je vous dis, elle aura une influence considérable sur saint Augustin et sur la chrétienté d'Occident et après avec toutes ces résurgences comme le catharisme, etc. Donc c'est un gnosticisme dualiste, donc lumière ténèbres, bien mal, être non être, enfin tout ça. Syncrétiste, hein, puisqu'il prétend faire disons la synthèse de toutes les grandes traditions religieuses qui l'ont précédé. Alors c'est un dualisme cosmologique. Hein, il y a le bien et le mal, quoi. Et moralement, ça se traduit par là encore tout ce qui est de l'ordre de la matière est mauvais. Donc matière égale mauvais. Donc l'ancratisme, la suppression du mariage, de la procréation, etc.
C'est vers les cathares, ça.
Ouais, bah oui, c'est exactement ça. Les cathares sont les fils spirituels, si on peut dire, du manichéisme. Alors, Mani va convertir le roi d'Afghanistan, puis l'empereur, Shapur Ier. Vous savez, celui qui... Il accompagnera même Shapur dans la bataille où Gordien, l'empereur Gordien, sera vaincu, lui-même étant accompagné par Plotin. Vous voyez, chacun avait son philosophe. Donc Gordien était flanqué de Plotin et Shapur de Mani. Alors, Shapur, du coup, va laisser Mani... diffuser sa doctrine dans l'empire perse, mais les mages vont pas être très contents parce que ça leur supprime leur gagne-pain évidemment et leur emprise sur le peuple, et ils vont fomenter des révoltes, et puis ils vont obtenir du deuxième successeur de Shapur eh bien, la condamnation de Mani, qui sera exécutée dans des conditions abominables. Et donc, ça sera la fin du fondateur du manichéisme, mais pas la fin du manichéisme proprement dit. Donc, tout ça pour vous donner un peu l'ambiance intellectuelle du monde hellénistique, et en particulier dans cette grande cité d'Alexandrie, qui à l'époque... Et la deuxième cité de l'Empire. Hein. Deuxième cité de l'Empire. Vous voyez le manichéisme, vous voyez le néoplatonisme à côté de tous les platonismes précédents. la philosophie juive qui se développe avec Philon, et puis la philosophie chrétienne qui va se développer justement avec cette école d'Alexandrie, qui va essayer de rester chrétienne, c'est-à-dire d'être à la fois une philosophie, mais basée sur la méditation de la révélation scripturaire. Et puis on va s'arrêter là, et on verra la suite. Comment ? La semaine prochaine, peut-être bien.